Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire. Nous sommes dans une période où nous passons d'une année à l'autre, où il y a ce moment de passage, ce moment où on peut aussi se recueillir, regarder l'année qui s'est terminée et aussi regarder l'année qui s'en vient. Et pour nous accompagner justement pour vivre ce passage d'une année à l'autre, nous avons avec nous Daniel Cadrin, dominicain, auteur, conférencier, avec beaucoup d'expérience et de responsabilité. Daniel, bienvenue à Question d'aujourd'hui.
Oui, bonjour Renaud, bienvenue aussi aux gens qui nous écoutent.
Et effectivement, merci aux auditeurs, auditrices d'être là avec nous. Daniel, quelques mots sur vos engagements au cours de la dernière année, des derniers mois.
Ah bon. Alors, je suis un professeur retraité, c'est ce qu'on dit officiellement, de l'Institut pastoral des Dominicains, mais je meurs actif, plus dans des comités, des services. Par exemple, je suis impliqué dans la promotion du laïcat dominicain, des laïcs dominicains au Canada. C'est un mouvement actuellement qui est très vivant. J'étais en décembre à Québec pour cela, j'étais en novembre à Toronto, j'étais en octobre à Vancouver pour différentes rencontres. Je suis très impliqué aussi dans le RACEF, le réseau d'art chrétien et éducation de la foi. On organise une exposition, on organise une autre, sur les paraboles, c'est extrêmement intéressant. Je suis aussi dans le Centre culturel chrétien de Montréal, on fait des activités au cours de l'année. Et j'étais en novembre au symposium de l'IRTIM, l'Institut d'études et de recherche en théologie sur l'interculturalité, la migration et la mission. Alors, c'est un sujet aussi qui m'intéresse et qui est un groupe écuménique avec des gens de différentes églises.
Alors, vous avez eu une année,
remplie. C'est de toutes sortes de choses. En fait, comme dominicain, évidemment, d'abord, je vis dans la communauté Saint-Albert-le-Grand, une communauté de 17 frères. Et c'est important, c'est comme religieux, je suis un frère, d'abord. Nous sommes une communauté de frères. Et c'est une communauté aussi où il y a une variété de ministères. Alors, donc, je participe à ça. On est impliqué, je suis aussi impliqué au Centre étudiant Dominicum, avec des étudiants d'un peu partout et qui sont là. On a un frère impliqué dans une paroisse portugaise à Montréal, un autre impliqué dans une paroisse latino, un autre dans la communauté chrétienne Saint-Albert ici. C'est là depuis assez longtemps, un autre plus près des Français, bon. Il y a aussi, je partage avec mes frères et le réseau qu'on a autour de nous aussi, ce sentiment qui me rend beaucoup plus espérant que bien des gens, dont j'entends parfois les discours plaintifs ou des abusifs sur l'avenir de la foi chrétienne dans ce pays.
C'est intéressant, vous nous ouvrez une très belle piste, Daniel Cadrin. C'était une année 2025 sous le sceau du jubilé et de l'espérance. Est-ce que ça vous a marqué?
J'ai eu le privilège avant, quand je travaillais à l'Institut pastoral, de me promener dans toutes les régions du Québec et d'ailleurs dans le monde. C'est comme dominicain qui travaillait au plan international. Donc, j'ai eu la chance de voir beaucoup de réalités locales. On n'a jamais de regard universel, mais on peut avoir plusieurs regards locaux qui s'accumulent et qui nous donne beaucoup plus de confiance en l'avenir. Un avenir complètement différent, une église ici beaucoup plus modeste, très simple, avec peu de moyens. Mais il y a des gens qui découvrent l'Évangile, des gens qui s'y engagent. Il y en avait, il y en a, il y en aura, dans un cadre différent de celui qui était la chrétienté, ou de celui d'une église qu'on a connue aussi renouvelée, mais un peu quand même chercher encore à être une présence culturelle forte. Bon, ça, on commence à être rendu ailleurs. Mais c'est pas ici, je vois en France, l'an dernier, les milliers de baptêmes qu'il y a eu, c'est absolument nouveau. Il y en a ici aussi, il y en a dans d'autres pays. Et il y a des jeunes, des personnes d'âge différents qui découvrent la foi, qui se regroupent, et puis bon, c'est ça qui est le plus important, qui lisent les Écritures ensemble, qui célèbrent, qui espèrent qui ont souci de la paix, faire la paix, comme le pape Léon XIV nous y invite beaucoup, pour y revenir un peu plus tard. Ouais. En tout cas, donc je vois ça, ça me donne de l'espérance.
Vous avez de l'espérance. Daniel Cadrin, vous avez de l'espérance. Et c'est assez formidable parce que vous avez aussi vu beaucoup de choses différentes dans l'Église, dans la société du Québec. On ne reviendra pas là-dessus. Mais on va axer notre notre dialogue aujourd'hui, Daniel Cadrin, sur le passage d'une année à l'autre. Vous êtes dominicain, vous avez une vie spirituelle, une vie fraternelle, une vie ecclésiale, une vie familiale aussi,
oui,
j'imagine.
Oui.
Vous avez différentes dimensions. Hein? Bon, on peut vivre le passage d'une année à l'autre en disant « Ouf, je suis bien content, contente que l'année soit finie et j'ai bien hâte de voir la nouvelle » ou l'inverse. Ça a été 2025 une année absolument formidable pour moi, mais j'appréhende peut-être 2026 plutôt, ou les deux. Cette année est finie, j'appréhende aussi l'autre. Alors, il peut y avoir toutes sortes de sentiments au niveau de passage d'une année à l'autre. Vous avez beaucoup d'expérience de passer d'une année à l'autre. Daniel Cadrin, comment on peut vivre ce passage d'une année à l'autre?
D'abord, le passage d'une année à l'autre, son sens est immédiat en ces jours-ci, puisque le 29 décembre, c'est mon anniversaire de naissance, donc je passe carrément d'une année à l'autre, je passe à 79.
Eh bien, on peut vous souhaiter la paix et aussi de continuer dans votre vocation, dans votre mission.
C'est une année, bon, qui clignote, parce que je me dis, après, ça va changer de chiffre, mais là, bon, une année à la fois, comme on dit. Ensuite, tu parlais de famille. Moi, dans ma famille, je suis originaire de Lévis, ma famille est de Bellechasse. La grande fête familiale, c'était le jour de l'an. Hein? Noël, c'est une fête religieuse, pas pareil. Mais la grande fête familiale, c'est le jour de l'an. Et nous avons gardé cette coutume. Alors moi, à Noël, je fête ici avec les Dominicains, mes frères. Une fête religieuse, mais jour de l'an, je vais toujours avec ma famille. On a continué la tradition. On va chez mon frère, mes frères, sœurs, je ne veux ni à toutes les amis. On se rassemble toujours pour passer de l'an ancien à l'an nouveau ensemble. Et jusqu'au matin. On a toujours gardé la tradition. On mange, on boit, on fête, on fait des jeux, on fait tout ça, on passe la nuit. Et c'est festif. Alors pour moi, donc, passer d'une année à l'autre, ça évoque d'abord ces deux réalités mentionnées. Mon anniversaire, mais aussi ce passage où je suis enfant, qui se vit toujours avec d'autres, très social, et en même temps très festif. Et avec aussi manger, boire, ça fait partie des rituels, faire des jeux. Il y a vraiment un sens d'appartenance communautaire, et qui fait que c'est préférable de passer une année, à mon avis, avec d'autres,
faire le passage avec d'autres
que seul. Enfin, bon, on peut le faire aussi, mais enfin, comme tel. Bon. Puis passer, c'est un terme qui est très évocateur au plan biblique aussi. C'est la Pâque, le passage. Bon, je me dis, quels sentiments peuvent nous habiter dans ce passage? Il y en a plusieurs. Et d'abord, évidemment, un sentiment de gratitude. L'année qui s'est écoulée, quelle a été cette année? Il y a eu des rencontres, il y a eu des dons reçus, il y a eu des solidarités, il y a eu des expériences difficiles aussi, il y a eu des défis à affronter, il y a eu des beautés qui ont été entrevues. Enfin, il y a tout ça. Et d'abord, une gratitude, ce qui est la prière chrétienne par excellence. Hein, c'est d'abord la gratitude, l'action de grâce, hein, rendre grâce, ce qui est toujours événementiel, qui n'est pas juste en général. Et puis ensuite, une autre attitude qui vient.
Daniel, avant d'aller, vous permettez, avant d'aller dans l'autre attitude, est-ce que, à ce moment-là, vous nous conseillez peut-être de prendre un certain temps, soit seul, soit avec d'autres, pour reconnaître les belles choses de l'année qui finit? Est-ce que vous nous conseillez de nommer ça?
Oui, ça vaut la peine. Pas obligé de le faire à minuit, on peut le faire avant, la journée avant. On peut faire ça, mais aussi à deux, trois, ça dépend de notre contexte de vie, avec qui nous sommes proches. Simplement, nommer, reconnaître, nommer. Sans chercher à tout détailler, nommer ce qui monte, pour lequel j'ai une gratitude, j'ai une reconnaissance. Puis j'ajouterais aussi, reconnaître les passages, puisqu'on parle d'un passage, les passages que j'ai vécu cette année.
Ah, ça c'est intéressant, Daniel Cadrin. C'est très rare qu'on pense regarder les passages qu'on a vécu à l'intérieur même d'une année avant de passer à l'autre année.
Ouais.
Puis des passages qui nous ont fait grandir.
C'est ça. Des passages, parfois c'est des temps de crise, où je perds, je quitte une rive, j'arrive à une autre rive, il y a de l'inconnu. En moi, que ce soit au plan du logement, ou bien au plan du travail, au plan d'une relation de couple, au plan de moi-même, comment j'envisage ma vie, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je deviens. Cette année, j'ai vécu tel passage et ça fait naître en moi des questions, des incertitudes, des espoirs, mais reconnaître, chaque année on vit des passages. Il y a des années plus intenses que d'autres. Bon, d'autres années, il y en a, ça fait partie de l'expérience humaine. Et ces passages, c'est toujours la clé pour moi dans la quête spirituelle.
La quête spirituelle, les passages.
Oui, c'est la clé parce que c'est le mystère pascal qui est au cœur de la foi chrétienne. Il y a toujours un passage de mort à la vie, un passage d'une rive à l'autre, et il y a beaucoup de textes bibliques là-dessus, mais je pense que ça vaut la peine de reconnaître ces passages. Et des fois, je peux me faire aider par d'autres pour les reconnaître, les nommer. On ne voit pas toujours clair en soi-même. C'est en parlant avec d'autres, en écoutant, dans l'interaction, que parfois on commence à voir clair. Il me semble, en tout cas. Des fois, je rencontre des gens, bon, où j'accompagne un peu, puis ils parlent, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui reçoit cette parole, ils peuvent mieux reconnaître ce qu'ils ont vécu. Hein. Non, en tout cas, je pense que ça peut aider pour passer d'une année à l'autre. J'ajouterais aussi peut-être quelque chose, là. Les gratitudes, la reconnaissance, une reconnaissance que je n'ai pas formulée durant l'année, pour une rencontre, une reconnaissance, une gratitude face à quelqu'un, quelque chose, un événement, c'est arrivé. Est-ce qu'il y en, bon, je n'ai pas oublié d'aller voir chacun pour le, mais est-ce qu'il y en a quelques-unes de ces gratitudes ou de ces passages que j'ai vécu où j'aimerais aller dire à quelqu'un? Par écrit, par courriel, par une parole ou autrement, en moyen une image, bien des façons de dire ma reconnaissance à cette personne. Ça vaut la peine. Non, on n'est pas des numéros. On n'est pas des êtres humains qui ont leur dignité. Et il me semble que ça vaut la peine de porter attention les uns aux autres de cette manière.
C'est une manière, donc, pas seulement d'envoyer des vœux de Noël, si je comprends bien, mais ça pourrait être de prendre le temps. Peut-être que j'ai pas assez dit à telle ou telle personne ma reconnaissance de leur présence dans ma vie, peut-être d'une aide que j'ai eue. Peut-être une découverte aussi que j'ai faite. Donc, vous nous invitez aussi à pas négliger cet aspect de faire signe à une personne ou l'autre et d'exprimer, pas juste de la reconnaître dans la prière, mais de l'exprimer à l'autre, ce que cette personne m'a apporté, de dire la reconnaissance.
Ne pas taire, enfermer la reconnaissance. Oui, non. Parfois, je peux être reconnaissant pour une parole que quelqu'un m'a dite. Simple parole. Et peut-être que moi, ma parole de reconnaissance à un autre peut aussi l'aider. Vous comprenez? Il y a de la réciprocité dans tout ça.
La place de la reconnaissance et de la gratitude dans notre société, Daniel Cadrin. Il me semble que... Quelle est votre évaluation?
À première vue, on dirait que c'est pas fort. On aime mieux... C'est comme si publiquement, si on soulignait que quelqu'un, fêtait quelqu'un, faut plus faire des blagues, critiquer, tout ça. Oui, c'est sympa. Mais on peut aussi dire nommer les bonnes choses. Des fois, je vois dans les galas où on remet toutes sortes de prix, tout ça, c'est bien. Il y a des gens qui disent des merci, mais on entoure ça parfois beaucoup de peu. Faut rire, faut je sais pas quoi. Obligé. On peut reconnaître, hein. Point. Tout simplement, les dons qui sont là, là. Et on n'est pas obligé d'assaisonner ça toujours de mordant puis de piquant, comme c'était un spectacle. La reconnaissance, c'est pas d'abord un spectacle.
Daniel Cadrin, comment cultiver dans l'Église cette reconnaissance de ce que l'un et l'autre on s'apporte, de ce que l'Église peut nous apporter aussi? Comment on peut cultiver cette reconnaissance?
Ouais. Bon, ça se cultive d'abord en faisant soi-même, donnant des temps à l'occasion personnelle pour le faire avec quelques-uns, en le faisant aussi dans les moments de prière, que ce soit dans une communauté plus petite ou une communauté de célébration plus grande, un temps de prière où on exprime nos gratitudes, on exprime nos reconnaissances, nommément, tu sais, et pas juste en général, tu sais, sans détail, parce que je sais pas si on prend un temps de prière dans un groupe de partage ou dans une célébration dominicale, où les gens laissent monter, et expriment dans le cadre d'une célébration où il y a du chant, Il y a de la musique, il y a des symboles. T'sais? Ces paroles ou gestes de reconnaissance s'y inscrivent. Et me semble que c'est beaucoup plus signifiant aussi d'intégrer cela dans nos liturgies domestiques ou plus communautaires.
Daniel Cadrin, on sait aussi qu'il y a plusieurs personnes qui vont vivre des moments de solitude, qui seront abandonnées ou qui seront ignorées ou qui seront pas invitées, on pourrait dire comme ça, et qui auront à vivre ce passage d'une année à l'autre, peut-être aussi avec en se disant « je viens de vivre une année très difficile, j'appréhende une prochaine année ». Comment on peut vivre ce passage alors qu'on est seul?
Mais tu vois, on peut être seul, on peut être deux, on peut être dans un groupe, on peut être dans une foule. Bon, moi je me dis pour un passage qui plus il est dur et intérieur, plus il faut vivre à un moment donné à deux ou en groupe. La foule peut pas nous aller beaucoup là-dessus. Et moi tout seul je suffis pas.
Alors ni tout seul ni la foule.
Déjà qu'entre deux il y a à deux trois ou en groupe. Je trouve que non, parfois c'est pas possible, mais si c'est possible, oser sortir. Vous acceptez une invitation. Non, oui. L'accepter. Et je pense que... Parce qu'ensuite, parfois, c'est en étant avec d'autres, en portant les autres dans la mutualité, que soi-même, on peut être davantage porté dans nos défis, nos difficultés, nos passages.
La question d'aujourd'hui, nous sommes toujours en compagnie de Daniel Cadrin, dominicain. Daniel Cadrin, le 1er janvier, c'est la journée mondiale de la paix. Et c'est donc souligné dans certaines communautés, certains sanctuaires aussi. Il y a des prières pour la paix, parce que on sait très bien que dans notre monde, il y a plusieurs défis de paix, que ce soit entre, bien sûr, des pays, que ce soit entre des options citoyennes ou politiques, que ce soit même à l'intérieur de différents courants. Il y a toujours ce message, donc, pour le 1er janvier, cette journée mondiale de la paix. Vous avez lu pour nous le message du pape Léon.
Oui, alors voilà. On n'a pas le message complet, évidemment, ce sera le 1er janvier, mais on a déjà des pistes qu'on a pu... C'est extrêmement intéressant. Il y a plusieurs choses. D'abord, je souligne que ce message nous vient du pape Léon XIV, mais en lien avec le dicaster pour le service du développement humain intégral. Et je signale que ce dicaster, qui fait partie du Vatican, et son préfet, c'est un Canadien. Un cardinal canadien, un jésuite, le père Michael Czerny, qui a déjà travaillé dans ce service, mais pour la question des migrants, qui ont travaillé chez les jésuites pour tout leur service des migrants, toujours engagés depuis très longtemps dans les questions de justice et de paix. C'est lui qui a d'abord indiqué les pistes de ce message, je trouve ça intéressant quand même de le souligner. Bon, ensuite, et ça, on a pu le découvrir, le message pour la Journée mondiale de la paix du pape Léon nous invite à une paix désarmée, une paix désarmante, ce qui est intéressant, on peut développer chacune, hein? La paix désarmée où les armes et les conflits sont pas premiers, et désarmante qui viennent nous chercher, nous transformer aussi nous-mêmes de l'intérieur, qui nous rend plus libres. Il reprend le message qui a été son premier message comme évêque d'Europe, le 8 mai 2025, après son élection, il est allé sur le balcon. Et là, le cardinal Robert Prévost s'est présenté comme Léon XIV. Alors, quelle a été la première intervention de Léon XIV? Juste après son élection, dans sa bénédiction Ubi et Orbi, il a d'abord dit, première parole, que la paix soit avec vous. Il a souligné que cette paix a été la première salutation du Christ ressuscité dans les évangiles. La paix soit avec vous. Il leur offre la paix. Et Il a répété que la paix soit avec vous. Et qu'est-ce qu'il a dit? La paix du Christ ressuscité, une paix désarmée, une paix désarmante, humble et persévérante. Bon, il l'a développé. Et dans son premier discours, qui n'était pas très long, je l'ai ici sur une page, la paix revient 9 fois.
La paix revient 9 fois dans un discours de 300 mots à peu près.
Ouais, et c'est son premier message du pape Léon XIV, et qui finit en parlant de la paix dans le monde, comme tel. Alors, c'est pas un hasard, là, tu sais. En cette première journée mondiale de la paix, où Léon XIV, l'évêque de Rome, et il revient à ce qui était son premier discours. Alors, déjà, je trouve ça très, très signifiant. T'sais. Ça dit une continuité, une option claire chez lui, qui est pas en passant, qui reprend, évidemment, il l'a dit aussi explicitement, qui reprend celle du pape François, il l'a dit dans son discours, enfin son texte sur la Journée mondiale de la paix, paix et justice. Et alors donc, il a ici un appel qui vient nous chercher, pas juste comme disciple de Jésus d'abord, mais aussi qui vient chercher des dynamiques sociales, relationnelles de toutes sortes, hein, et interculturelles et internationales. Parce que bon, son appel pour la paix, bon, est un appel aussi qui est plus large et signale aussi dans son message pour la paix. Donc, quand il dit que la paix, une paix qui est désarmée, c'est-à-dire qui n'est pas fondée sur les armes, les armements, qui n'est pas fondée sur la menace, qui n'est pas fondée sur la peur, mais une paix qui est désarmante parce qu'elle veut chercher à ouvrir les cœurs, mais aussi à débloquer les conflits.
Ah, c'est comme ça qu'il nous présente cette paix, désarmante.
On laisse
paix désarmante.
Les conflits sont capables et sont nombreux, de l'Ukraine à Gaza qui n'est pas réglé, au Soudan et à tant d'autres endroits, sans compter les conflits plus locaux, dont on parle moins. Et il fait aussi un lien entre cette paix désarmée et désarmante, mais qu'il ne faut pas juste invoquer, mais il faut incarner, entre autres, par nos styles de vie.
Par nos styles de vie. Léon XIV parle de nos styles de vie.
Style
Est-ce qu'il détaille?
Oui, style de vie. Comment faire que dans nos styles de vie, une violence plus immédiate ou une violence plus structurelle dans nos styles de vie soit maintenue pour essayer de sortir d'une façon de vivre qui n'est pas juste individuelle, mais qui est aussi sociale, hein, qui est dans comment nos sociétés fonctionnent.
Daniel Cadrin, est-ce qu'il le qualifie? Qu'est-ce qu'il entend par violence structurelle, le pape Léon XIV?
Ah bon, la violence structurelle, ça reprend des éléments que le pape François a souvent soulignés dans ses interventions. Et même que le premier Léon XIII, celui qui portait le nom de Léon avant, dont il avait parlé dans Rerum Novarum, c'est-à-dire des fonctionnements sociaux qui se figent dans des structures qui deviennent oppressantes comme structures, qu'on appelle finalement des structures de péché, qui écrasent les gens, qui écrasent des peuples, qui écrasent des individus, et qui sont mis en marge, et il ne suffit pas d'être aimable avec les gens ou d'avoir de meilleures relations, les structures doivent être transformées, hein, pour qu'il y ait la paix, autrement il n'y a pas de paix. Hein. Et si l'injustice persiste, il n'y a pas de paix non plus, hein, c'est comme tel. On pense à la façon dont les migrants, les réfugiés peuvent être accueillis, reconnus, respectés. Et ça, pas besoin d'aller loin. Il y a des enjeux ici dans le pays qui est le Canada, dans la province qui est celle du Québec. Des enjeux très clairs là-dessus. Hein. Des gens à qui on a fait des promesses, on les a fait venir. Puis ensuite, on n'a plus besoin de vous. Merci, bye-bye, rangez-vous.
Ou on change les règles du jeu.
C'est ça, c'est très injuste. Hein. Et là, c'est des structures là, comme telles, des structures étatiques. Qui manque de respect, de base, hein, envers l'étranger, ce qui est au cœur de toute la tradition biblique. Hein. Le critère, toujours, dans les psaumes, dans beaucoup de textes des prophètes, etc., c'est de quelle façon est traitée la veuve, l'orphelin et l'étranger.
C'est dans la Bible, c'est la trilogie, hein, c'est la trilogie des plus vulnérables.
Oui, plus vulnérables. Et on ne peut pas en ajouter d'autres dans notre société ici, maintenant, mais l'étranger, ça demeure tout à fait comme grande vulnérabilité. Et le pape François y était sensible, et le pape Léon XIV n'a pas abandonné du tout cette ligne-là dans même, durant l'année, mais interpeller les évêques américains, les évêques catholiques américains, sur cette question, face aux politiques du gouvernement des États-Unis actuellement. T'sais. Et alors, donc, il y a une ligne de force qui est maintenue.
Daniel Cadrin, prier pour la paix entre le 31 décembre et le 1er janvier, ça a été longtemps une tradition dans plusieurs églises. Est-ce que c'est encore le cas?
Oui, j'espère. Et j'aimerais terminer par le 1er janvier, dans la liturgie dominicale du 1er janvier, en citant un texte qui est une bénédiction qui vient du livre des Nombres. On est très ancien, on est plusieurs siècles avant Jésus-Christ, au chapitre 6, versets 22 et suivants. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. » Alors, c'est une bénédiction à entendre à chaque premier jour de l'an.
Est-ce que c'est pas aussi une bénédiction à lire, à méditer et à se rappeler tout au cours de l'année?
Oui, oui.
Daniel Cadrin, votre souhait pour la prochaine année?
Par rapport à la paix, de prendre une façon de la vivre en nous-mêmes, si on veut la rayonner. Et je reviens à ce que je disais au début, une façon de vivre cette paix en nous-mêmes, c'est d'être capable chaque jour de gratitude. Prendre une petite minute chaque jour de gratitude, c'est ce que je nous souhaite. Peut-être qu'il y aura plus de paix en nous et autour.
Une minute minimum de paix.
De gratitude.
De gratitude pour la paix. Daniel Cadrin, merci, ça a été un plaisir. Merci d'avoir été avec nous à Question d'aujourd'hui. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci pour votre écoute, votre soutien au micro Renaud Grégoire et je vous dis à bientôt.